1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Bonjour à tous et ravi de passer une nouvelle semaine en votre compagnie avec chaque jour, Nikos vous le disait, deux sujets dans ce tour de la question et avec vos témoignages pour nous aider à mieux les comprendre. Et dans l'actualité d'abord, bonjour ma chère Julie.
Bonjour Wendy.
La bataille de Paris qui est lancée, en quoi cela intéresse-t-il la France et que présage ce match parisien des élections municipales de leur ensemble? C'est en 2020 mais pour certains c'est déjà demain. Emmanuel Macron a-t-il bien fait de sacrifier deux de ses ministres pour cette bataille? On parlera bien au-delà du cas parisien d'autres enjeux importants dans ces municipales et aussi des candidats qui sillonnent en ce moment déjà le terrain. Ils seront avec nous au standard. On vous attend, hein, Julie.
Le standard qui est ouvert. 21, voilà. Et pour les réseaux sociaux, c'est le hashtag Europe 1.
Absolument. Et puis à 10h, avec Luc Ferry et avec Jules, auteur et dessinateur, on s'intéresse au grand mythe grec qui façonne encore notre histoire. De la mythologie grecque à aujourd'hui, pourquoi a-t-on toujours besoin de légendes, de héros, de récits, de morale au fond? C'est notre sommaire jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités pour décrypter ces enjeux municipaux du moment, Gaël Sliman, bonjour.
Bonjour.
Président et cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa et Jean Garrigue, historien de la vie politique. Bonjour Jean.
Bonjour.
Auteur notamment de La République incarnée de Léon Gambetta à Emmanuel Macron, paru aux éditions Perrin. Vendredi, nous consacrions notre première heure aux élections européennes. C'est dans 2 mois, l'enjeu approche. Évidemment, on se dit, en se projetant en 2020, ne va-t-on pas un peu trop vite? Mais le mini-remaniement nous incite à poser un petit peu les choses sur la table. De ce point de vue, comment on explique que deux ministres d'Emmanuel Macron, aient souhaité se lancer si tôt dans la campagne des municipales et en l'espèce dans celle de Paris, Gaël Sliman? Est-ce que c'est classique, finalement, comme timing?
Bah, classique, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelques raisons à ça. La première raison, on a un certain nombre d'enquêtes, de sondages qui ont été publiés ces derniers jours, y compris une par un de nos confrères, une enquête d'intention de vote ce matin même. Et nous avons réalisé une enquête à Odoxa qui vient d'être diffusée pour les éditions du Rocher à l'occasion de la parution d'un livre très dur à charge
sur
Anne Hidalgo. La Reine Mère, écrit par François Deltraz, et on a essayé de balayer la perception que les Franciliens qui habitent autour de Paris, les Parisiens évidemment qui vont être les électeurs de cet enjeu électoral, et les Français avaient à l'égard de Paris, de son maire Anne Hidalgo, et ce qu'étaient leurs attentes. Et on se rend compte que rarement depuis une quinzaine d'années, avant une élection municipale, le jeu n'a semblé aussi ouvert. Parce que la maire de Paris ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un certain nombre de reproches qui lui sont faits. Et comme dans l'enquête que nous avons réalisée, on avait des points de comparaison avec de précédents sondages effectués à l'époque à propos de Bertrand Delanoë, et on se rend compte que l'étoile du maire de Paris a très largement pâli. Et en gros, pour dire les choses clairement, Wendy, que la ville pourrait être prenable, si j'ose dire. Et c'est ce que confirment d'ailleurs les intentions de vote, les sondages d'intentions de vote qu'ont publié nos confrères, où on voit que Anne Hidalgo aurait reculé, si l'élection avait lieu dimanche prochain, elle aurait reculé d'une douzaine de points ou d'une quinzaine de points, ça dépend des enquêtes, par rapport à son score des dernières municipales. Alors, elle est encore en tête au premier tour des intentions de vote dans la plupart des sondages qui ont été effectués, pas toujours, mais le plus souvent. Mais on se rend compte que c'est jouable, surtout que elle aurait pour adversaire principal, là aussi, c'est serré, ça pourrait être le candidat ou la candidate des Républicains, mais elle aurait plutôt le candidat d'En Marche. Donc Benjamin Griveaux, par exemple, ou Mounir Majoubi, même s'il est un peu plus décroché dans les enquêtes, ou encore M. Villani. Donc, ça veut dire que la première ville de France, celle qui est la plus importante à gagner, celle qui fait que vos municipales sont réussies ou perdues, elle est jouable. Rappelez-vous, en 2001, quand Bertrand Delanoë remporte les municipales à Paris, c'est un raz-de-marée pour la droite. La gauche est laminée, mais tout ce qu'on retient médiatiquement, c'est la gauche a bien résisté, voire même elle a réussi quelque chose de formidable, parce qu'à l'époque, il y a Paris et Lyon qui basculent. Donc il y a un vrai enjeu politique, ce qui fait que, pour répondre à votre question, ça aura valu le coup pour Emmanuel Macron d'avoir perdu deux de ses ministres.
Oui.
si l'un des deux parvenait peut-être à remporter la mairie de Paris dans un contexte des municipales qui ne sera peut-être pas très favorable en marche par ailleurs.
C'est très intéressant parce qu'on va voir tous les enseignements de ces élections municipales à venir. Jean Garrigue, la nécessité d'un maillage territorial d'abord pour La République En Marche. On voit bien que pour l'instant, la lumière est braquée sur Paris, mais on va venir à Marseille, à Lyon, à Lille, qui sont aussi des bastions prenables par La République En Marche. Aujourd'hui, il n'y a pas de maillage territorial, si ce n'est un peu parlementaire, pour En Marche. Or, un parti a besoin d'une assise du genre.
Alors, Emmanuel Macron a triomphé à la présidentielle. Il a obtenu une majorité pléthorique à l'Assemblée nationale. On s'est aperçu au moment des sénatoriales que précisément, ce qui manquait, c'était ce maillage d'élus locaux, parce que les sénatoriales, ça se joue d'abord à partir des élus locaux. Et donc, très naturellement, les élections municipales qui se profilent sont un enjeu majeur pour pérenniser l'influence de La République En Marche.
Et le premier, c'est normal, hein, le parti a un an et demi.
Si on veut que ça ne soit pas un feu de paille, et uniquement autour de l'émergence d'Emmanuel Macron, si on veut installer ce que veut représenter La République En Marche, on a besoin des municipales. Et singulièrement, c'est ce qui vient d'être dit, Paris, il y avait dans le temps un ouvrage qui s'appelait « Paris et le désert français ». On n'en est plus tout à fait là, mais c'est quand même un symbole majeur, Paris, c'est la ville à prendre, c'est la conquête municipale majeure. On se souvient que Jacques Chirac en avait fait le tremplin de son élection à la présidentielle. Donc c'est un symbole, c'est un enjeu majeur. Et donc on comprend que La République En Marche se mobilise. On peut se poser les questions sur le timing, parce que le fait comme ça de partir du gouvernement donne un très mauvais signe par rapport à ce que signifie justement la gouvernance, par rapport à ce que doit être le sens de l'État.
Surtout qu'il y a une autre élection dans l'intervalle.
Et
hein,
deuxièmement, il y a aussi une autre élection d'abord à préparer. Et donc là, on peut se demander s'il n'aurait pas pu falloir attendre le lendemain des élections européennes. Mais on voit aussi que Gérard Collomb est parti, lui, déjà depuis septembre 2018,
et
qu'il est déjà en campagne. Oui. Donc on voit bien, il faut du temps pour préparer des élections de ce type. Il faut faire campagne très longtemps. Jacques Chirac, d'ailleurs, à l'époque, j'en parle parce que c'est la première élection qui a marqué.
Oui, 1977.
Jacques Chirac, il avait pris son temps aussi, parce qu'il y avait une majorité à renverser à l'époque. Il n'était pas, lui, majoritaire. Il y avait une majorité plutôt de centre-droit, libéral. Et donc, ça prend du temps. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, le jeu en vaut la chandelle, parce que le bastion peut être prenable du temps de la Noé. Et avec l'héritage de la Noé Hidalgo, manifestement, c'était très difficile de déboulonner. Mais là, aujourd'hui, il y a un enjeu.
Alors, j'entends déjà nos amis non-parisiens se dire « qu'en ai-je à faire de Paris ?» Mais cet enjeu dépasse bien, évidemment, la capitale. On va vous le prouver jusqu'à 10h ce matin en parlant d'abord d'autres grandes villes, mais aussi de toutes les communes, si vous le souhaitez aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes candidat, si vous êtes élu en place et que vous ne voulez pas vous représenter, n'hésitez pas à nous appeler, à témoigner, parce que vos expériences seront aussi importantes pour illustrer notre sujet sur cette bataille des municipales. Enjeu stratégique majeur aussi pour Emmanuel Macron. On vous attend, ma chère Julie.
Au 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La question Facebook du jour. Tiens, les élections municipales sont-elles, selon vous, un enjeu stratégique majeur pour Emmanuel Macron ? Vous dites oui à 61%. Avec ce commentaire de Jean-Philippe, mais pourquoi vouloir faire à tout prix d'une élection qui concerne la vie locale un enjeu national ?
Ah, bonne question que je soumets à nos invités, Gaël Slimane, président de l'Institut de sondage Odoxa, et Jean Garrigue, historien de la vie politique. Élection locale, certes, mais à résonance nationale.
Oui, à résonance, à extrême résonance nationale. On le disait tout à l'heure, qu'en 2001, on avait finalement transformé une élection municipale, des élections municipales qui étaient un échec pour la gauche, en une victoire, grâce notamment à la victoire de Bertrand Delanoë. Oui. Et puis, ça s'explique aussi, Jean Garrigue rappelait l'expression « Paris et le désert français », tous les centres de pouvoir, de décision, les sièges de grandes entreprises, ou la plupart, les grands médias, sont situés à Paris.
Donc un président a besoin, quelque part, d'un allié.
On peut s'en passer, mais en tout cas, ça peut être un gros atout pour un président qui aura peut-être du mal à avoir beaucoup de relais dans des villes en province, que d'avoir au moins un grand maire ou deux, puisque à Lyon, Gérard Collomb aussi pourra être un relais pour Emmanuel Macron.
Oui, et c'est un grand enjeu quand on fait partie par partie un petit peu l'état des lieux. C'est même passionnant, Jean Garrigue. On va commencer par peut-être l'enjeu le plus important aujourd'hui, le Parti Socialiste. Nous avons Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, qui dit qu'en cas d'échec au municipal, il y a un risque d'extinction du Parti Socialiste. On a le dernier bastion socialiste dans le nord de la France, c'est Lille. La nécessité de reconquérir quelques grandes villes, notamment Limoges. Autrement, sans ancrage territorial, le PS n'existe plus. Par exemple, c'est un des enjeux.
Tout à fait, parce qu'on voit bien à quel point la gauche est en miettes, se divise. On le voit pour les élections européennes, avec toutes ces listes. Le recours à Raphaël Glucksmann, qui ne vient pas du Parti Socialiste, pour porter le Parti Socialiste. Mm-hmm. L'échec, évidemment, aux élections législatives de 2017. Et puis, la fin du parti en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une hémorragie de militants telle que, au fond, le parti n'existe plus vraiment. Alors, c'est vrai que la tradition du Parti Socialiste, qui n'ont jamais été vraiment très nourris en termes de militants, c'était plutôt un parti d'élus ou d'élections qui préparaient
et de proximité.
Ouais. Alors, justement, s'ils perdent cette proximité-là, s'ils perdent leur réseau d'élus, qui sont une force, et qui le sont aussi d'ailleurs de l'autre côté pour les Républicains, pour ce qu'on appelle l'ancien monde, c'est une force très, très importante pour ces partis-là. S'ils perdent ça, alors évidemment, là, on peut vraiment se poser des questions sur la survie du parti. C'est donc un enjeu majeur. Et on voit bien d'ailleurs à quel point, là aussi, Paris peut maintenir justement l'illusion, en tout cas cette espérance de reconstituer justement un parti socialiste fort.
Parti par parti, intéressant aussi et intéressante, la stratégie électorale annoncée par le Rassemblement National qui met le cap sur les villes moyennes. Il n'est peut-être plus question de présenter 562 listes comme en 2014, mais ils veulent au Rassemblement National un programme à la carte qui est très en phase, très enraciné avec les problématiques locales pour être plus percutant justement sur le terrain. Donc on voit bien comment chaque parti se prépare à cet enjeu de 2020, c'est demain quand même, hein, il faut le dire, Guy Sliman.
Oui, et puis il y a aussi d'autres raisons pour le Rassemblement National. Peut-être une raison aussi, c'est d'éviter, si vous me passez l'expression, une grosse tôle. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois que...
Ils ont 9 communes aujourd'hui. Hein,
oui, mais je pensais surtout à Paris. C'est-à-dire que vous avez une territorialisation, c'est un fait politique plutôt nouveau depuis une dizaine d'années. Mmh. Vous avez une très forte territorialisation du vote dans les grandes démocraties. Ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on retrouve en Italie, en Grande-Bretagne. Et en gros, les personnes qui habitent les zones rurales et périurbaines se sentent justement isolées, éloignées des centres de décision. Prenez le cas des Gilets jaunes, par exemple, c'était une de leurs revendications fortes. Écoutez-nous, nous ne sommes pas considérés, disent-ils. Et on retrouve ce phénomène un petit peu partout. Et cet électorat-là vote très massivement pour les partis dits anti-système, que certains qualifient de populistes, et notamment le Rassemblement National de
Mais
Marine Le Pen.
Mais aussi pour les municipales ?
Et alors pour les municipales aussi, et puis surtout à l'inverse. Dans les grandes villes, comme à Paris, vous êtes assuré de faire un score extrêmement faible lorsque vous portez cette étiquette-là. Une étiquette anti-système, populiste, appelez ça comme vous voudrez. Et donc, plutôt que de faire 4 ou 5%, ce qui est le lot de l'ex-Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui, dans une ville comme Paris, eh bien, ils préfèrent ne pas y aller pour ne pas avoir à endosser, à assumer un échec et effectivement se concentrer sur des petites villes
gagnables,
des villes moyennes qui sont gagnables
oui,
ou sur lesquelles de toute façon ils pourront faire un bon score.
Oui, mais on va voir avec vous justement pourquoi on vote, dans quelle perspective on vote. Est-ce qu'on vote vraiment pour une étiquette ou davantage pour une personnalité de terrain qui va sur le terrain le plus vite possible pour éviter tous les procès en parachutage? On en a eu beaucoup ces dernières années. Jean-Garrigue, Gaël Sliman sont avec nous pour nous éclairer sur les enjeux de ces municipales 2020 et déjà la course, la bataille lancée à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Nice avec les frères ennemis Christian Estrosi, Éric Ciotti. On va y revenir, messieurs, jusqu'à 10h. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce scrutin des municipales au 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Alors que les européennes ne sont même pas passées, on parle déjà des municipales 2020. Est-ce le bon timing pour se déclarer? Et ce scrutin vous passionne-t-il d'ailleurs? 39-21 pour réagir, 50 centimes la minute.
Pour qui vote-t-on au juste aux élections municipales? On va y venir avec Gaël Slimane, président cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa, avec Jean Garrigue, auteur de La République incarnée chez Perrin et historien de la vie politique. Avant de commencer à répondre à cette question et à voir sur le terrain le dévouement ou la lassitude de certains élus, j'aimerais juste qu'on redise un mot de ces deux ministres qui ont démissionné en fin de semaine dernière pour se lancer dans la bataille municipale de Paris, avec aucune certitude d'ailleurs pour Mounir Majoubi d'obtenir l'investiture du parti. On peut être deux face à face. Hein. Le gouvernement a fait acte de ces candidatures, a décidé de les laisser partir, voler de leurs propres ailes. Sitôt, je vous repose la question, Gaël Slimane, parce que c'est maintenant que tout se joue. Il ne faut pas se réveiller 6 mois avant. Paris est encore prenable aujourd'hui, donc mieux vaut les laisser déjà sur le terrain, ces candidats.
Oui, Paris est prenable. On a dit combien c'était important. Paris est prenable, pourquoi? Parce que dans le sondage que nous avons réalisé pour les éditions du Rocher à l'occasion de la sortie du livre François de Letraz, on a interrogé les Parisiens
sur
Anne Hidalgo, qui s'appelle la Reine Mère. Mmh. On a interrogé les Parisiens, les Franciliens, les Français. Mmh. Chacune de ces populations, et les principaux concernés sont les Parisiens, sont une large majorité à nous dire avoir une mauvaise opinion de la maire de Paris actuelle, et les Parisiens notamment, se disent largement insatisfaits de son action.
Oui, mais ils voteraient pour elle, de nouveau.
Alors, ils voteraient pour elle. Dans les intentions de vote, elle est à 22-23% en moyenne.
Talonnée.
Alors, au premier tour, vous avez raison, ça la met en tête le plus souvent, mais elle est talonnée par ses adversaires, que ce soit les candidats de la République En Marche ou d'ailleurs des Républicains. Ça signifie que ça représente une douzaine de points en moyenne de moins que ce qu'elle avait fait lors des dernières municipales. Et en plus, face à un adversaire, La République En Marche, qui pourrait récupérer des voix des autres listes, et notamment de gauche ou écologiste. Mmh. Donc, il y a un espace. Et puis, il y a une deuxième raison qui explique pourquoi tous ces ministres sont prêts à partir du gouvernement, c'est que ça ne fait plus rêver d'être au gouvernement. Vous avez vu les difficultés...
Est-ce que ça fait rêver davantage de se dire qu'on a peut-être une chance seulement d'être investi? Je pense à Mounir Majoubi.
Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, l'arbitrage, si vous mettez à la place des individus, cette fois, on préfère avoir une chance, sans être sûr, d'être maire, plutôt que d'être assuré d'être ministre.
Oui.
Et dans ce gouvernement, c'est tout le drame d'ailleurs d'Emmanuel Macron, ce qu'on observe à longueur d'enquête au niveau national, c'est qu'il est tout seul. Vous avez un Premier ministre qui existe un tout petit peu, et puis sinon, il y a une concentration, une focalisation qu'on avait déjà observée sous Nicolas Sarkozy notamment, de tout ce qui est lumière médiatique, capacité à porter la parole de ce qui est fait, qui est concentré sur le président de la République. D'une certaine manière, il est le premier ministre, le premier des ministres, et même le seul des ministres, Emmanuel Macron. Donc, il n'y a plus d'espace pour les autres. Et vous comprenez à cet égard que des personnalités comme Benjamin Griveaux ou Mounir Majoubi se disent « j'aime mieux tenter ma chance d'avoir une possibilité d'être élu maire sans en être assuré ». Plutôt que de rester dans ce gouvernement.
Et peut-être pour moins de 3 ans. Ouais.
C'est très clair, c'est le symptôme de cette surprésidentialisation de notre système, qui ne date pas d'Emmanuel Macron, mais qu'Emmanuel Macron a renforcé, incontestablement, parce qu'il est Emmanuel Macron, parce que son mouvement est né de lui-même, de sa volonté, de son enthousiasme, et parce qu'il gouverne de cette façon. Et on voit bien à quel point, effectivement, il y a une sorte de désertification autour de lui. Et ce qui est très grave, si vous voulez, à plus long terme, c'est la manière, la perception que peuvent avoir les Français, justement, du sens de l'État, ou de ce que doit être l'appartenance à un gouvernement. Je veux dire que appartenir à un gouvernement, c'est d'abord une mission à accomplir. Et si vous n'avez pas au bout de cette mission, vous êtes faillible et critiquable. Et c'est ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot, c'est ce qui s'est passé avec Gérard Collomb, c'est ce qui se passe maintenant avec Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi. Ça pose vraiment un problème sur la légitimité de nos institutions et surtout de nos hommes politiques. Et comme par hasard, où est-ce que les Français se retrouvent un peu plus dans cette légitimité du pouvoir? Dans les pouvoirs municipaux, locaux. Ce sont les maires qui restent les plus populaires. Ce sont les maires à qui on fait confiance. Notamment les maires des petites communes, etc. On a vu les maires des petites communes qui ont lancé des cahiers de doléances spontanément et que ça a eu beaucoup de succès pendant le grand débat national. Donc, il y a cette confiance dans les maires et ça explique aussi pourquoi c'est plus gratifiant pour une personnalité politique qui manque de sens de l'État, à mon sens, mais en tout cas, c'est plus gratifiant d'aller justement vers une élection municipale.
En tout cas, conséquence de ce contexte, la bataille de Paris est lancée, et par effet d'imitation, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Nice, hein, l'enjeu aussi est important. Nice, où Christian Estrosi, le maire en place, est aujourd'hui talonné, dernier sondage, par son ancien ami, allié, Éric Ciotti. Il y a aussi cette nécessité de reconquête pour les Républicains, aussi par le maillage territorial d'un certain nombre de villes un peu clés, emblématiques. Hein. Notamment
Et Nice. On va retrouver d'ailleurs ce qu'on avait pu observer à un moment donné sous Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, alors si on s'intéresse à la droite et aux Républicains, vous avez un peuple de droite. Vous avez une force politique considérable qui est la première force d'opposition à Emmanuel Macron en termes de poids électorale, en termes d'élus, mais vous avez une non-incarnation de cette force politique parce que Laurent Wauquiez, jusqu'à présent, a très largement échoué dans sa stratégie. Quand il est testé dans les sondages en termes d'image, en termes de personnalité, en termes de popularité, c'est assez catastrophique. Hein, dans notre baromètre politique, il se situe dans les queues de classement avec des niveaux de popularité extraordinairement faibles et une cote de rejet, à l'inverse, très importante. Mais il y a un espace pour son parti. C'est pas parce que le leader des Républicains ne parvient pas à convaincre.
On décorrèle quand même.
Il faut décorréler les deux. Vous avez un électorat de droite en France qui est susceptible de voter à tout un tas d'élections pour la droite, tout autant que ça ne voudra pas dire à leurs yeux blanc-seing pour Laurent
Wauquiez. Juste avant une petite pause, sur les 35 000 communes, quelle est la tendance droite-gauche dans les grandes familles? C'est
Bah, pour l'instant, c'est oui, mais il y a un socle, effectivement, comme le dit Gaël Sliman, il y a un socle énorme pour la droite classique, la droite traditionnelle.
Sur le terrain municipal, la France est plutôt dans une droite classique.
Mais oui, on a cette illusion dans le débat public de ce qu'est devenu ce nouveau monde où il y a La République en marche d'un côté, et puis les deux extrêmes, le parti anti-système, la France insoumise, et le Rassemblement national. Mais en réalité, dans la France profonde, précisément dans ce maillage territorial, là, vous retrouvez un petit peu le Parti Socialiste, et surtout la droite modérée,
droite et divers droite, hein.
les Républicains, bien sûr.
Jean Garrigue est avec nous pour cette lecture des municipales, et on va aller dans un instant en Seine-et-Marne, avec Gaël Sliman, également président de l'Institut de Sondage Odoxa. A tout de suite, et jusqu'à 10h, pour discuter de cet enjeu, c'est dans un peu plus d'un an maintenant. N'est pas la France et d'autres batailles commencent à se déclarer de Nice à Marseille, de Lyon à Bordeaux. Alors qui pour convoiter les mairies alors que la moitié des élus actuels disent ne pas vouloir se représenter? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. Absolument, et on entendra un ami de la maison qui veut s'engager dans ces élections municipales, et lui pour le coup il est à rebours de ces 49% d'élus en France au niveau national qui ne souhaitent pas repartir dans la bataille, 59% au niveau rural. Jean Garrigue est avec nous, historien de la vie politique, Gaël Sliman, président d'Odoxa. Encore un petit mot, messieurs, avant ce témoignage, sur l'intention des partis, on l'a bien comprise, dans ce maillage territorial, mais la force de l'étiquette dans cette élection. J'ai quand même le sentiment qu'on vote pour quelqu'un qui connaît les enjeux, la localité, qui est affirmé sa proximité, qui ne mente pas sur la connivence ou le sentiment d'intérêt qu'il a sur cette commune, plutôt qu'un parti dans les municipales.
Il y a une surreprésentation énorme dans notamment dans les petites et les moyennes communes, de candidats sans étiquette, divers droite, divers gauche, parce que précisément, la dimension locale, la dimension de charisme personnel, de confiance, de légitimité et de continuité dans la gestion d'une ville, c'est quelque chose de très important.
C'est peut-être pour ça que l'élu reste aussi le maire le plus apprécié.
Sans remonter Édouard Herriot, qui est resté 50 ans maire de Lyon. Oui. Et c'est quelque chose de très important. Bertrand Delanoë, on voit bien à quel point il a eu du succès. Sa notoriété, et Jacques Chirac avant, ça a été très important. Et bien souvent, effectivement, une personnalité, c'est quelque chose de très marquant dans une élection municipale. Une personnalité qui arrive qui crée un engouement autour de lui. C'est ce qu'avait réussi à faire Bertrand Delanoë, d'ailleurs, alors qu'il n'était pas forcément le candidat le plus connu des socialistes. Il y avait Jack Lang face à lui.
Oui, et
Jack Lang avait été conduit à... Donc, si vous voulez, c'est à la fois la personnalité, mais aussi la capacité à démontrer quelque chose qui est important.
Personnalité contestée ou pas, là, je pense à Patrick Balkany à Levallois, qui est réélu, à Jean-Claude Gaudin. C'est Jean-Claude Gaudin qui fait la notoriété de Marseille pour les Marseillais, peut-être pas quelqu'un des Républicains.
Avec un effet de fidélité particulier, quelque chose qui transcende même la personnalité de l'élu. Il y a aussi, on est attaché à cet élu local. S'il n'a pas trop fait de bêtises, même si c'est bêtises, il en a fait, mais en l'occurrence Balkany, mais n'était pas considéré comme des bêtises de gestionnaire ou de maire. C'était de la corruption, c'était sa vie privée.
Là, les habitants aiment Balkany, la manière dont il gère sa ville.
Il y a un effet de continuité qui est très important. Parce qu'il y a cette proximité et on a besoin de connaître son maire. Voilà.
C'est intéressant ça, cette analyse Gaël Sliman, qui prouve aussi la reconnaissance des administrés vis-à-vis de leurs édiles, avec, vous le disiez, ce maire qui est la personnalité politique préférée des Français aujourd'hui.
Oui, de tous les politiques, c'est celui qui s'en sort le mieux, le maire en termes d'image. Et comme Jean le rappelait, ça transcende les étiquettes. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez être... Un élu de gauche dans une ville qui vote à droite, comme ça a été le cas pendant très longtemps à Paris. Vous pouvez, à l'inverse, espérer remporter une ville de gauche qui vote nationalement à gauche alors que vous êtes vous-même de droite. Tout ça est jouable à partir du moment où vous donnez le sentiment à vos administrés que vous les connaissez, que vous vous occupez d'eux. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ce match à Paris notamment est complètement... jouable pour les adversaires à partir du moment où, à l'inverse de Bertrand Delanoë, la maire de Paris actuelle est largement réprouvée par ses administrés. Donc il y a cet enjeu. Mais il y a un autre paramètre quand même, c'est qu'une fois qu'on a considéré que l'étiquette n'était pas le principe fondateur du vote au municipal, une fois que ça s'est dit et c'est bien dit, quand on a une étiquette de gestionnaire raisonnable, type socialiste ou les Républicains, eh bien on part aujourd'hui plutôt avec un avantage à des élections municipales par rapport à des gens qui vont avoir une étiquette plus chamboule-tout, parce qu'on attend du maire qu'il soit davantage un gestionnaire raisonnable qu'un révolutionnaire.
Chamboule-tout, vous pensez au Rassemblement National ou à la France Insoumise.
Ou à la France Insoumise. Mmh. Donc, il y a un bénéfice pour le Rassemblement National la France périurbaine, parce qu'il y a un vote RN, XFN extrêmement bien installé. Il y a un inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas une image de bon gestionnaire, de gestionnaire bon père de famille,
idem
si vous voulez.
Idem pour la France Insoumise.
Et idem pour la France Insoumise.
Ouais. On se retrouve dans un instant, messieurs, avec un témoignage de terrain. Juste après la pause, nous partons en Seine-et-Marne, à Magny-le-Hongre, retrouver Fabrice Lafitte, qui va nous dire pourquoi, lui, il part, comme tant d'autres hommes ou femmes, dans cette bataille des municipales en jeu 2020. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Europe 1. La suite de notre débat, pourquoi la bataille de Paris commence si tôt? On parle des municipales, comment expliquer que deux ministres d'Emmanuel Macron aient souhaité se lancer si tôt dans cette campagne des municipales? Wendy Bouchard.
Et au-delà du cas parisien, nous avons évoqué Marseille, nous avons parlé de Lyon, nous parlerons de Bordeaux, Nice, Lille, les élections municipales qui sont un enjeu aussi stratégique pour Emmanuel Macron et pour tous les autres partis du Parti Socialiste. On en a parlé à la France Insoumise, aux Républicains. Évidemment, Gaël Sliman de l'Institut de Sondage Odoxa, président et cofondateur, est avec nous. Jean Garrigue, historien de la vie politique, auteur de La République incarnée chez Perrin également. Juste avant de donner la parole à Fabrice qui nous attend en Seine-et-Marne, je voudrais que vous nous redisiez là à l'antenne ce qu'on vient d'évoquer pendant la pause. Nous avons donc en France 35 000 communes aujourd'hui, dernier recensement
avec
les fusions.
35 000, oui, ce qui nous met au niveau de tout le reste des communes de l'Union européenne.
C'est-à-dire qu'on a autant de communes en France que partout ailleurs en Europe.
Partout ailleurs.
C'est incroyable.
C'est vous montrer à quel point
c'est
important
française.
Dans notre inconscient, dans notre histoire, dans notre culture, et donc à quel point ces élections sont importantes et fonctionnent très souvent pour les petites communes sur le bénévolat, avec des risques, on en parlait tout à l'heure en off, qui sont des risques réels pour les maires, financiers, au pénal aussi, bien souvent. Donc il y a quelque chose qui relève d'une je le répète, d'une sorte d'enthousiasme spontané des Français pour cette mission, parce que c'est une véritable mission qui rend l'élection municipale, qui en fait un rendez-vous très important, plus important qu'ailleurs. Donc c'est, je le répète, on comprend que les partis, mais là les partis, ça se joue déjà plus à l'échelle des communes moyennes, parce que très souvent dans les petites communes, on a ces fameux candidats
sans étiquette,
divers droite, divers gauche, qui joue l'essentiel du jeu. Et là, la notoriété, l'engagement, la personnalité jouent un rôle majeur.
Bien sûr, en tout cas, au-delà des risques que vous évoquez, Jean Garrigue, il faudra bien trouver ces 35 000 candidats pour ces 35 000 communes. Et on salue le dévouement, l'enthousiasme de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Bonjour Fabrice Lafitte.
Bonjour Wendy, bonjour tout le monde.
Alors c'est très étonnant pour moi de vous avoir à l'antenne parce que vous étiez jusqu'à l'année dernière mon technicien, grand réalisateur pour la matinale d'Europe 1. Vous êtes un réalisateur très heureux dans cette maison, mais ça a fait des années que vous êtes implanté à Magny-le-Hongre en Seine-et-Marne, commune de 8428 habitants exactement. Et ça fait des années que je vous entends dire votre amour pour votre commune, amour qui va bientôt se concrétiser car vous vous présentez, c'est ça, à la mairie, Fabrice.
Voilà, alors en préambule, j'aimerais dire que je fais partie des nombreux candidats déclarés, puisqu'on deviendra officiel uniquement quand on aura déposé nos listes auprès de la préfecture quelques semaines avant mars 2020.
D'accord, mais la bataille est quand même lancée pour vous ? Comment vous faites ?
Pas tout à fait, c'est une petite commune. On est loin de ce que j'entendais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des appareils politiques. Il va y avoir effectivement différentes personnes qui vont se présenter. Moi, je les considère comme des partenaires, pas forcément comme des adversaires, et j'espère que le débat va se passer sur le terrain de manière très intelligente et constructive.
Il faut être un peu fou et passionné pour être maire aujourd'hui, Fabrice ?
C'est ce que me dit ma femme, elle me dit « mais là tu vas au-delà de graves ennuis ». Alors moi je ne me présente pas pour la gloriole, ni même pour l'aspect financier, puisque dans les petites communes, bah, il faut continuer à garder son emploi. Et je ne vous quitterai pas, chère Wendy, je ne quitterai pas cette belle maison d'Europe 1. Mais voilà, non, c'est l'envie de m'investir. Moi je ne suis pas un professionnel de la politique, je suis un passionné du terrain, de la relation, de l'échange avec les habitants. Et j'ai envie de m'investir là où j'habite, d'avancer concrètement. Je ne suis pas là pour faire des promesses, vendre du rêve. Non, je suis là pour essayer de faire avancer la commune et les projets. Parce qu'il y a de nombreux défis à relever, notamment dans les petites communes, parce qu'on n'en a pas trop parlé, dans les communes en province et même en grande région parisienne, il va y avoir aussi des regroupements de communautés d'agglomération, des regroupements d'EPCI. Et donc là, on va nous marier dans des grands ensembles de 200, 300 000 habitants. Et il faut qu'on choisisse nos voisins, nos habitants, avant qu'on nous les impose quelquefois. Et donc là, c'est le travail aussi qu'on commence déjà à relever actuellement.
Mais alors justement, parce qu'on parle beaucoup des intercommunalités, de l'écrasante hypercommune qui tue les petits villages. Alors vous, c'est une commune de taille moyenne, 8400 habitants, Magny-le-Hongre. Mais quand on s'investit dans une mairie comme celle-ci, avec des coups à prendre, Fabrice, et qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas les coudées franches et les mains libres, est-ce qu'on se sent pas de fait un peu impuissant? Et vous vous dites que votre personnalité peut-être peut changer les choses ?
Alors je suis peut-être un peu utopiste, mais non, j'ai envie de faire avancer les choses localement. Et effectivement, il y a peut-être des choses qui seront difficiles à gérer, mais voilà, je suis prêt à relever le gant et le défi.
Il y a beaucoup de candidats prédéclarés à Magny-le-Hongre ?
À ma connaissance, 3 pour le moment.
Oui, et ben c'est déjà beaucoup. Avec un maire actuel qui ne veut pas se représenter ou qui souhaite reprendre
c'est
la
ça,
bataille
ouais. Non, qui de par l'âge, il est là depuis 36 années à la tête de la commune.
Bravo.
Qui souhaite maintenant prendre une retraite bien méritée et laisser la place aux plus jeunes, comme dit-il.
Ouais, Gaël Slimane, comment réagissez-vous à l'investissement de Fabrice, voilà, qui a envie de se lancer dans cette bataille, qui attend l'investiture?
Je ne suis pas la femme de Fabrice, mais je comprends ses inquiétudes parce que c'est formidable.
C'est
absolument formidable que des gens aient cette envie-là, cette foi-là, cette envie de se dévouer pour le collectif. J'ai pas autant d'altruisme et donc j'ai du mal à me projeter parce qu'il y a quand même beaucoup de coups à prendre. C'est un boulot à temps plein, à 300%, avec le plus souvent dans des petites communes, une rémunération quasi inexistante ou très faible. Voilà, c'est un sacerdoce, donc c'est très bien, bravo, mais je comprends son épouse.
Et vous laissez la place à Fabrice.
Ah oui, volontiers.
Fabrice Lafitte.
En tous les cas, c'est vrai que les élus locaux que nous sommes, on est en prise directe avec la vie de notre commune chaque jour. on a le vrai pouls, quoi, la connaissance du terrain et de la réalité humaine de notre territoire.
C'est ça qui est formidable.
On discute avec les associations, les parents d'élèves, les seniors, voilà, on est proche de notre public.
Pour construire, et justement, puisqu'on parlait d'étiquette ou de non-étiquette tout à l'heure, vous avez le sentiment aussi dans votre mairie d'être un peu à l'abri des grands appareils et des grandes stratégies des appareils.
Absolument. Absolument. Je pense que dans les petites communes comme les miennes, aujourd'hui, c'est pas encore les grands appareils. Et je pense pas qu'il faille des listes aujourd'hui étiquetées, voilà, des listes diverses, oui, mais pas étiquetées encore. Ça suscite l'appétit, je vous le cache pas, d'appareils politiques qui nous demandent peut-être de prendre leur couleur.
Mais vous préférez être resté indépendant, ouais.
Aujourd'hui, même si moi j'ai mes choix politiques, je préfère rester indépendant.
D'accord.
Il y a une chose quand même qui fait envie à pas mal visiblement de personnes comme vous pour se présenter, c'est l'idée qu'on peut changer les choses à un niveau local, à l'échelle d'une petite ville. Là où, quand vous êtes au gouvernement, et c'est quand même peut-être aussi le calcul que font certains ministres, vous êtes un élément souvent peu visible parmi de nombreux autres. Et vous avez peu de latitude, peu de marge de manœuvre quand vous êtes ministre pour vraiment changer les choses, alors qu'un bon maire ou un mauvais maire dans une commune de 10 000 habitants, ça fait la différence pour les habitants.
Bien sûr, Jean Garrigue, pour terminer
avec Fabrice. C'est en effet un enjeu très important dans ce qui est aujourd'hui la reconstruction de l'espace politique, du concret, des choses pratiques. On voit bien que dans les éléments de mobilisation, de remobilisation des jeunes, par exemple, l'idée de faire quelque chose de très concret, de cibler ce qu'on appelle la culture post-it, c'est quelque chose qui est très important. Et quoi de plus mobilisateur, justement, que la gestion municipale, que la gestion locale, en évitant, alors ce qui est aujourd'hui un vrai problème pour les maires de petites communes ou de moyennes communes, comme c'est la commune dont on parle, de 8000 habitants, c'est justement le danger de ces grands regroupements de communes où vont se diluer les responsabilités, où le maire aura l'impression qu'on ne l'écoute pas, qu'il n'a pas suffisamment de moyens, qu'il dépend de la technocratie, et on l'entend très souvent chez les maires, justement, ce manque de responsabilisation, ce manque de moyens aussi pour ce qui est au fond le plus important, c'est-à-dire le contact direct, les projets très concrets qui sont ceux d'un maire.
Mais il veut batailler, c'est tout à votre honneur, comme les 35 000 autres candidats qui se présenteront en mars 2020. Merci Fabrice Lafitte et bonne chance donc à vous et aux autres candidats à Magny, Le Hongre, en Seine-et-Marne, et à bientôt derrière la console d'Europe 1. On fait une petite pause et on se retrouve avec Jean Garrigue et Gaël Slimane.
Mois des municipales en France, les partis et les candidats commencent sérieusement à se préparer, comme La République En Marche qui envoie deux ministres, ex-ministres, faire la course à Paris et qui réfléchit aussi à la stratégie à adopter à Lyon et à Marseille. Wendy Bouchard.
Oui, à un an et à un mois, est-ce que les sondages veulent dire quelque chose, vous qui avez lancé ce sondage Odoxa pour Paris, Gaël Slimane?
Les sondages d'intention de vote ne veulent pas dire grand-chose. Non. Alors, je dis ça parce qu'on n'en a pas encore sorti.
Oui.
Mais ils sont intéressants. Ils sont intéressants parce qu'ils vous disent quel est le rapport de force à l'instant T, à un an. Mais ils ne sont pas prédictifs. En revanche, les sondages comme celui qu'on a réalisé, qui est assez complet, qui balaye toutes les dimensions de la perception de la personnalité d'Anne Hidalgo auprès des Parisiens, auprès des Franciliens, qui sont directement concernés, je le rappelle aussi,
pour
le Grand Paris, et puis auprès des Français, ça a du sens parce que ça ne va pas bouger en un an. Et en gros, quand vous avez aujourd'hui une grande majorité des habitants de Paris qui nous disent que leur maire actuelle, elle est autoritaire, qu'elle manie la langue de bois, qu'elle n'est pas compétente, qu'elle n'est pas tolérante,
ça donne envie de changer.
Voilà, ça vous montre qu'il y a un espace pour changer. Alors, est-ce que ça veut dire que Benjamin Griveaux, par exemple, serait jugé plus compétent, meilleur, ça on ne le sait pas, et il est possible que non. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un espace de frustration qui existe sur la personnalité et aussi sur les réalisations. Et donc ça a du sens parce que ça ne bougera pas dans un an. Anne Hidalgo sera peut-être réélue dans un an, mais dans ce cas-là, elle aura encore ses éléments négatifs du côté des Parisiens.
Avec la nécessité d'un maillage territorial pour La République En Marche, c'est ce qui manque évidemment au parti d'Emmanuel Macron qui est tout jeune. Puisqu'on est dans le contexte socio-politique du moment, une liste gilet jaune, plusieurs listes gilet jaune vont être représentées aux européennes. Est-ce qu'on en parle pour les municipales, Jean Garrigue?
Écoutez, autant il me semble difficile et presque superflu d'avoir une liste gilet jaune aux européennes, si ce n'est pour témoigner.
Oui, alors, ça n'a pas beaucoup de sens.
Je ne vois pas ce qu'elle pourrait apporter liberté, car on voit bien que cette thématique de l'Europe a été absente dans le discours des Gilets jaunes, si ce n'est éventuellement pour protester contre la technocratie de Bruxelles. En revanche, pour ce qui concerne les élections municipales, j'allais dire que là, on est au cœur de cible des Gilets jaunes, puisqu'on a bien vu que c'est parti d'une France oubliée, d'une France périphérique, d'une France silencieuse, qui veut avoir la parole. Donc qu'elle prenne cette parole et qu'elle se présente sur des objectifs très concrets, très précis, dans le cadre des communes petites ou moyennes, hein, qui ont fait au départ, qui était quand même le socle de ce mouvement. Et on voit par exemple que quelqu'un comme Ingrid Levavasseur, une des voix...
Elle a abandonné de son engagement européen.
A été conduite, dégoûtée. Même a abandonné, dégoûtée pour l'engagement européen. En revanche, qu'elle ambitionne justement de se présenter aux élections municipales. Et je pense que son exemple va faire des petits, parce qu'il y a vraiment là une cohérence politique par rapport à ce qu'a représenté le mouvement des Gilets jaunes.
En tout cas, la moitié des élus actuels ne souhaitent pas se représenter. Il leur reste peut-être un peu de temps pour changer d'avis. Dans un an, vous ne doutez pas qu'on va trouver les 35 000 élus pour les 35 000 communes de France ?
Je n'en doute pas. Je fais même le pari que beaucoup de ceux qui, en ce moment, parce qu'il y a eu cette fracture territoriale, parce qu'il y a eu tous les problèmes qu'on a rencontrés, sont plutôt hésitants. Je pense qu'une grande partie d'entre eux, finalement, va revenir dans l'élection municipale, parce qu'on voit très bien à quel point ça fait partie de notre culture, à quel point ça peut être mobilisateur. On peut vérifier très vite sur le terrain si on est efficace. On peut avoir le retour très rapide de la population. Et ça, c'est quelque chose que vous ne trouvez que dans ce type d'élection et dans ce type de mandat.
La vertu du concret, même si ce n'est pas pour demain, pour vous, Gaël Sliman, j'ai compris. Pas pour 2020, non. En tout cas.
Sans façon, mais Jean a raison. C'est vrai que c'est une élection qui permet... d'avoir le sentiment de changer les choses.
Merci beaucoup Gaël Sliman, président et cofondateur d'Odoxa, l'Institut de sondage. Merci à Jean Garrigue. Je renvoie à l'un de vos ouvrages, mais ils sont nombreux et tous passionnants. La République incarnée de Léon Gambetta à Emmanuel Macron, c'est le dernier paru aux éditions Perrin. Merci Jean,
merci
bientôt
beaucoup.
Tous les deux. On va se retrouver dans un instant pour une belle émission, je crois, ma chère Julie. On va parler de ce qu'il reste de la mythologie grecque dans notre société. Pourquoi nous sommes toujours aussi fascinés, que nous soyons enfants ou très adultes. On en parle avec Luc Ferry, philosophe et spécialiste de la mythologie grecque, qui publie beaucoup d'ouvrages pour toutes les générations, et avec Jules, dessinateur et auteur notamment de 50 nuances de grec chez Dargo. À tout de suite, j'adore ce titre.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.